Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le gouvernement du Venezuela et son président sont à l'origine de possibles crimes contre l'humanité. Voici ce qu'affirment des enquêteurs de l'ONU qui évoquent la torture et des assassinats. Les détails dès le début de ce journal. Vous entendrez ensuite une représentante de l'Organisation mondiale de la santé. Elle refuse les discours alarmistes sur la pandémie de Covid-19. Bercy anticipe une chute du PIB français de 10% cette année, puis un rebond de 8% l'année prochaine. Année calme selon le ministère de l'économie, nous détaillerons ces prévisions. Et puis nous nous pencherons sur la réforme du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Les députés veulent le rendre plus accessible pour lui donner plus de visibilité. Un chef d'État en exercice accusé de crimes contre l'humanité. Le chef d'État, c'est le président vénézuélien Nicolas Maduro. Ses accusateurs, ce sont les enquêteurs de l'ONU. Ils disent avoir de bonnes raisons de penser que Nicolas Maduro et au moins deux de ses ministres ont ordonné le meurtre de plusieurs opposants au Venezuela. La torture serait aussi devenue systématique dans le pays, Jérémy Lanche.
Les enquêteurs n'ont jamais reçu le feu vert de Caracas pour mener leurs investigations sur place. Ils ont donc interrogé à distance des victimes et des témoins de ces exactions et passé en revue des milliers d'incidents. Les conclusions sont sans appel. Depuis 2014, plus de 5000 personnes auraient été exécutées par les forces de sécurité vénézuéliennes. La preuve qu'il ne s'agit pas d'actes isolés, mais bien d'une politique d'État, selon Francisco Cox Vial, l'un des rapporteurs.
Nous avons des informations qui montrent que le président Maduro a indiqué aux services de renseignement qui devait être surveillé. Il y a des détentions arbitraires, la torture est systématique, il y a une politique organisée pour arrêter et faire taire toute opposition. Ce sont des faits, de notre point de vue, constitutifs de crimes contre l'humanité. Et les responsables doivent rendre des comptes devant la justice.
Dans la ligne de mire des enquêteurs, il y a aussi les forces d'action spéciale. Responsable avec la police de plus de la moitié des exécutions extrajudiciaires, la commission d'enquête demande leur démantèlement. Face à l'incurie des autorités vénézuéliennes et la mise au pas de la justice, les enquêteurs appellent maintenant la Cour pénale internationale à se saisir du dossier.
C'était Jérémy Lanche pour France Culture. Le gouvernement vénézuélien, lui, dénonce déjà des contre-vérités. Le Premier ministre libyen souhaite quitter ses fonctions d'ici la fin du mois d'octobre. Fayez al-Sarraj l'a dit hier soir lors d'une allocution télévisée. Il dirige le gouvernement libyen d'entente nationale soutenu par la communauté internationale, mais sa légitimité est contestée par le maréchal Haftar et par son armée nationale libyenne. Sommes-nous au début de la pandémie en Europe, pandémie de Covid-19 ? C'est ce qu'affirmait en tout cas hier un expert de l'OMS, le docteur David Nabarro. Des propos alarmants qui ne font pas l'unanimité jusqu'au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Sylvie Briand, par exemple, est directrice du département préparation mondiale aux risques infectieux à l'OMS. Elle était hier soir l'invitée du journal de 22h de France Culture.
Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas succomber à la peur d'abord, parce que la peur engendre la méfiance envers les institutions, envers la science, envers un peu tout le monde, quoi. Et la peur engendre aussi de l'égoïsme. Et ce dont on a besoin maintenant, c'est vraiment de la solidarité, de se battre ensemble contre cette pandémie. Au départ, comme on ne connaissait pas la maladie, il y a eu un peu des mesures extrêmes mises en œuvre. Je vois par exemple avec le confinement très extrême de Wuhan, par exemple, dont on ne connaissait pas le virus, on ne connaissait pas la maladie, donc on pouvait comprendre qu'il fallait prendre ce genre de mesures. Maintenant, on connaît beaucoup mieux la maladie, on sait quelles sont les circonstances qui favorisent la transmission, et donc on a plus de moyens de mettre en place des interventions plus localisées et aussi plus efficaces. Donc par exemple, certains rassemblements sont plus dangereux, il faut les éviter ou prendre plus de précautions si on veut qu'ils soient toujours maintenus.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. J'ajoute que la pandémie de Covid-19 a tué plus de 936 000 personnes dans le monde, dont près de 200 000 aux États-Unis. En France, le nombre de décès s'élève à plus de 31 000. Côté contamination, Santé publique France en recense près de 10 000 en 24 heures. Le ministre de la Santé reprend d'ailleurs ses points hebdomadaires à propos de cette pandémie. Olivier Véran tiendra une conférence de presse ce soir à 17 heures. Et bien que le virus et les contaminations ne marquent pas de pause en ce moment, le scénario macroéconomique sur lequel Bercy a construit le projet de loi de finances pour l'année prochaine est plus optimiste que ce qui avait été envisagé en juin. On n'en connaît pas encore les détails, le PLF 2021 sera présenté à la fin du mois, mais Bercy a divulgué hier les principaux éléments de cadrage économique. Les précisions de Marie Viano.
De toutes les hypothèses retenues par le ministère des Finances pour élaborer le budget de l'an prochain, la plus importante n'est pas économique. Le scénario qui suit n'est pas fondé sur de nouvelles restrictions ou mesures de confinement, précise Bercy en préambule. Autrement dit, il n'est pas envisagé que la crise sanitaire contraigne à nouveau l'activité économique. Cette activité doit repartir fort en 2021. Bercy prévoit 8% de croissance après la chute de 10% en 2020. Fin 2021, le produit intérieur brut resterait donc inférieur à ce qu'il était avant la crise sanitaire et c'est courant 2022 qu'il retrouverait le même niveau. Moins de PIB, c'est moins de recettes et il y en aura d'autant moins l'an prochain que l'exécutif va poursuivre les baisses d'impôts. Baisse de l'impôt sur les sociétés, fin de la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés et impôt de production réduit de 10 milliards d'euros tel qu'annoncé dans le plan de relance. Au final, le déficit public atteindrait 6,7% du PIB et le ratio dette sur PIB, que scrutent habituellement les marchés financiers, 116%. Bercy anticipe une année calme, sans stress financier majeur et des taux d'intérêt stables l'an prochain. Le scénario central, c'est donc celui d'un retour progressif à la normale et même d'un rebond des créations d'emplois après la destruction attendue de 800 000 postes en 2020.
Et c'est justement contre une partie de ces suppressions de postes que se mobilisent aujourd'hui la CGT, Solidaire et la FSU. Ces syndicats appellent à la grève et à la manifestation en conservant les gestes barrières. Cette journée vise à protester contre les plans sociaux qui se multiplient en parallèle du plan de relance du gouvernement. Nouvel exemple d'ailleurs d'une entreprise qui veut se séparer d'une partie de ses salariés. Bridgestone dans le Pas-de-Calais, le japonais fabricant de pneumatiques, fermera en 2021 son usine de Béthune qui emploie 863 personnes. Une trahison pour le gouvernement et pour le président de la région, Xavier Bertrand. La firme justifie de son côté ce plan par des problèmes de marché structurels. Filons maintenant à l'Assemblée nationale où les députés examinent depuis hier soir la réforme du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. L'idée est de transformer cette assemblée consultative en, je cite, un carrefour des consultations publiques. Avec par exemple une saisine facilitée, des jeunes mieux associés et des citoyens tirés au sort. Bref, la refonte d'un système resté trop longtemps dans l'ombre, Rosalie Lafarge.
Cette institution, les Français la connaissent mal, voire pas du tout.
Et je vais vous dire, la plupart des élus ne la connaissent pas.
Et c'est un problème pour le député Modem Erwan Balanant, rapporteur du texte.
C'est un vrai problème parce que ça peut être un outil extrêmement important d'aide à la décision. Dans sa capacité qu'il a de traiter les sujets du long terme, dans sa capacité surtout qu'il a de se déconnecter des chamailleries politiques. Il n'y a pas d'esprit partisan, il y a un esprit de débat et il y a un esprit de construction de solutions.
Pour aider à la construction de solutions, le projet de loi veut abaisser le seuil des 500 000 signatures nécessaires pour une pétition citoyenne à 150 000, abaisser l'âge aussi des pétitionnaires.
Il ne faudra plus être majeur pour pétitionner, mais à partir de 16 ans, on pourra pétitionner.
Et puis, autre nouveauté, dans la droite ligne de la Convention citoyenne sur le climat, le CESE pourra, sur demande du gouvernement ou à son initiative, organiser une consultation citoyenne. La majorité et l'exécutif espèrent ainsi renouer des liens de confiance entre électeurs et élus.
Moi, ce qui m'a surpris, j'ai beaucoup suivi les travaux de la Convention citoyenne, c'est qu'un certain nombre de citoyens tirés au sort avaient une méconnaissance du fonctionnement, de notre rapport, comment fonctionnait l'élaboration de la loi. Et rien que ces citoyens qui ont vu comment ça fonctionnait, qui ont instauré un dialogue avec nous, eh bien, il y a déjà un début de réconciliation avec ce que c'est la représentation et ce que c'est la notion de démocratie représentative. L'enjeu de demain, l'enjeu de notre démocratie, c'est d'articuler la démocratie représentative et la démocratie participative.
Un défi à relever à effectif réduit de 233 membres aujourd'hui, le CESE passera à 175 avec cette réforme.
Rosalie Lafarge pour France Culture. Le syndicat national des pilotes de ligne plaide en faveur d'un prix plancher pour les billets d'avion au niveau européen. Un prix minimum comme une alternative aux écotaxes et pour éviter surtout le dumping environnemental et social. Voilà ce que dit le syndicat qui propose un prix à 40 euros minimum. En France, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé une éco-contribution calculée en fonction de la distance parcourue par les avions, mesure qui coûterait plus de 4 milliards d'euros aux compagnies aériennes. entre les mois de mars et les mois d'août. Je vous le rappelle, les aéroports français ont enregistré une chute de 81% de leur trafic. Le soleil sera partout ce jeudi en France métropolitaine, après quelques grisailles matinales le long du golfe du Lion. Et qui dit rayon de soleil dit encore chaleur. 19 degrés à Paris et à Besançon ce matin, 21 à Bordeaux et Lyon, 24 à Nice, entre 25 et 32 degrés cet après-midi du nord au sud.